et les bords, minuit.
De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur et les bords.
Second on Java Street, the dead car there. The hood blown out with a BB gun. Manuela said she saw the brakes fail. Manuela said she saw the brakes fail. An empty body, but it still bled. Oil from the axle and it left a trail. Ran down Java Street and formed a pool. Manuela saw the moon in there. Manuela saw the moon in there. And I hear a rumbling. I hear transmission grind. I bear. Times dark, dirt on the rooftops. Man jumps between and grabs the rail. Man tries the door, but the door is locked. Man gouged the hinge and goes down the stairs. Man gouged the hinge and goes down the stairs. Dull, bright morning and the tools are gone. Detectives with flashlights in the elevator shaft. Manuela tells detectives she saw him there. Stuck in the hinge is a sliver of a fingernail. Stuck in the hinge is a sliver of a fingernail. And I hear a rumbling. I hear trans. Grind. I bear witness. I have the clutch now. Three times dark on the turnpike. From the Motor City to the city of Dis. They traced his travel by his credit card. No sleep, smokes, and he's nauseous. No sleep, smokes, and he's nauseous. Flips an ash like a wild loose comma. Ash hits the oil around the pump. Travels to the pump and the pump explodes. Witness said he saw the car jump. Witness said he saw the car jump. And I hear a rumbling. I hear transmission grind. And I hear a rumbling.
une perle. Nous avons vendu plus de 40 exemplaires du livre, ce qui est plutôt réjouissant, mais le plus merveilleux de mon point de vue a été la partie ravitaillement. Suzanne nous a déniché des tickets de rationnement pour du sucre glace et de vrais œufs afin de nous confectionner des meringues. Si tous ces déjeuners littéraires atteignent ces sommets, je suis partante pour une tournée dans tout le pays. Penses-tu qu'un somptueux bonus l'encouragerait à nous trouver du beurre ? Essayons, tu n'auras qu'à déduire la somme de mes droits d'auteur. À présent, les mauvaises nouvelles. Tu m'as demandé si mon nouveau livre progressait ? Non, Sydney, il ne progresse pas. Les faiblesses anglaises s'annonçaient pourtant si prometteuses. Après tout, on devrait pouvoir écrire des tartines sur la société anglaise pour dénoncer la glorification du lapinot anglais. J'ai exhumé une photo du syndicat des exterminateurs de nuisibles défilant dans Oxford Street avec des pancartes « Abat Beatrix Potter ». Mais que peut-on ajouter à cela ? Rien, rien du tout. Je n'ai plus envie d'écrire ce livre. Je n'ai plus ni la tête, ni le cœur à l'écrire. Aussi cher que m'a été, et m'est encore, Izzy Bickerstaff, je ne veux plus rien écrire sous ce nom. Je ne veux plus être considérée comme une journaliste humoriste. Je suis consciente que faire rire, ou au moins glousser les lecteurs en temps de guerre n'était pas un mince exploit, mais c'est terminé. J'ai le sentiment d'avoir perdu le sens des proportions ces derniers temps, et Dieu sait qu'on ne peut rien écrire de drôle sans cela. En attendant, je suis très heureuse que Stephen N. Stark gagne de l'argent avec Izzy Bickerstaff s'en va en guerre. Le fiasco de ma biographie d'Anne Brontë me pèse moins sur la conscience. Merci pour tout, affectueusement, Juliette. PS, je suis en train de lire la correspondance de Mrs. Montagu. Sais-tu que cette femme lamentable a écrit à Jane Carill ? Ma chère petite Jane, tout le monde naît avec une vocation, et la vôtre est d'écrire de charmantes petites notes. J'espère que Jane lui a craché au visage.
So, 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 so,
Candidature qu'elle avait reçue par lettre, elle ne retint que 3 postulants, éliminant sans pitié les fauteurs d'orthographe, les débordants d'enthousiasme disproportionné, ceux qui lui proposaient leur service avec mensuration flatteuse à l'appui, et les jeunes femmes peu attentives ou qui avaient faim de ne pas remarquer l'absence pourtant significative de E à Féru. 3 types sérieux avec des CV remplis de bonnes écoles et de beaux diplômes. C'était grisant de relire leurs lettres en les attendant. Chacun maniait la flatterie modérée ou la galanterie bien comprise. Tous se souciaient de paraître aussi dévoués qu'admiratifs. Aucun ne lui avait semblé doté d'assez d'esprit pour lui convenir au premier coup d'œil, mais elle se sentait bienveillante, vaste et haute et sage et prête à répondre sur ses aspirants son indulgente et bénéfique influence. Le premier, né en 75, était un gros garçon à la face élargie, les cheveux trop courts pour son front luisant, mais trop longs sur sa nuque grasse. Des yeux intelligents, mais l'allure maladroite. Il était si encombré dans son corps qu'on n'avait aucune envie de s'intéresser à son esprit. Ne s'étant pas paré à l'impartialité, Cressida décida dès les premiers mots que ce candidat ne conviendrait pas. Sa voix fluette ajoutait encore à son apparence crapaude. Une fois la porte refermée sur le disgracieux, elle se fit quelques remarques. « Tu as été un peu dur, que sont ces préjugés ?» Mais très vite, réconfortée par une tasse de thé vert au riz soufflé, elle se trouva pardonnable. « Il faut quand même que ce soit un homme avec qui j'ai plaisir à parler. Je vais devoir lui offrir mes placards, l'emmener à la campagne, voir les mâles du grenier. Si je dois me boucher les oreilles à chaque fois qu'il l'ouvre, ce ne sera pas efficace. » Le deuxième avait de très gros yeux de bulldog, un nez court et pâté et une bouche épaisse, étroite. Pas très grand, assez mal habillé, d'une chemise noire brillante, qui lui donnait l'air d'un garçon de café en civil, mais la voix très douce et le débit lent, attentif. Tout en lui expliquant la tâche et en lançant des regards agacés sur les maillons chromés de son énorme montre, sur l'anneau d'argent noirci enfilé à son pouce, sur ses doigts courts et ses pieds trop petits. Cressida se disait « Il m'en reste un à voir et j'aurai probablement encore d'autres réponses. Je ne suis pas obligée de me décider vite, rien ne presse. Cette idée est sans doute prématurée de toute façon. » Le troisième, un millésime 71, lui plut tout de suite. Grand, brun, par-dessus de tweed sur un jean rempli aux bons endroits, les gestes rapides, l'air de savoir ce qu'il vaut et où il va. Charmé d'avance, elle lui demanda de lui raconter un peu sa vie, comme ça, entre nous. Elle s'attendait à être conquise. Mais le jeune homme, sûr de lui, le ton épique et la voix métallique, faisant crisser les sifflantes comme une craie dérapant sur un tableau, empilait les expressions les plus énervantes. Il n'avait pas toujours vécu sur Paris. Il avait de l'ambition, c'était clair. Il arrivait parfaitement à gérer sa vie professionnelle et ses passions multiples. Il se disait sincère et vrai, simple et sensible. Ses grands gestes montraient tout le contraire. Le cœur de Cressida grinçait comme la vis d'un vieux pressoir rouillé. Elle se mordait les lèvres, se passait la main sur le front, si bien qu'au bout d'un quart d'heure de monologue, son vis-à-vis fut bien obligé de s'inquiéter. « Non, non, vous êtes gentil, j'ai eu une journée un peu fatigante, merci. » J'ai vos coordonnées, je vous rappellerai. C'est ça, à bientôt.
de l'eau sur Mars, sur Elébor.
Dance it.
À l'époque, Nicole était une ravissante punkette californienne, blonde et mince. Maintenant, elle a perdu trop de poids, ses cheveux décolorés ont poussé, et en essayant de les teindre en roux, elle a obtenu une teinte marron merdique. Pas trop douée pour se piquer, elle s'est bien esquinté la peau des bras. Mais elle affirme à Carl que ça ne la gêne pas d'avoir cette apparence. Je me sens soulagée! Comme si je n'avais plus besoin d'être à la hauteur de ce que les gens attendent. Je peux être simplement moi, maintenant. Je ne suis pas obligée d'être, tu sais, Nicole. Je peux être moi. En la regardant, chevelure aplatie en arrière contre un crâne plus osseux, proportion du visage altérée, rondeur et innocence évaporées de ses joues, yeux agrandis, comme si une nouvelle physionomie essayait de percer la coquille de l'ancienne, en observant ses seins rétrécis par la sous-alimentation et les croûtes, meurtrissures, bosses et autres traces de piqûres rouges vifs constellant le dos de ses mains, ses bras et même ses hanches ou ses jambes, Carl s'interroge. La baiser ou pas ? La dernière fois remonte à loin. L'explication habituelle de Carl pour ce plan chasteté, c'est l'état de leur plumard. Quand un lit est dégueulasse, troué par les brûlures de clopes, encombré de fringues pas lavées, taché de vin, de sang, de bière forte, se mettre à poil est bien la dernière chose qu'on ait envie de faire dessus. Chaque fois qu'ils sont éjectés d'un motel, leur nouveau pieu devient en un temps record un symbole de dysfonctionnement. Là, tant que la cocaïne est encore dans son sang et qu'il a fugitivement l'impression que ce truc entre ses jambes est autre chose qu'un poids mort, Carl pourrait peut-être sauter Nicole sur ce lit propre aux draps frais préparé par la maman.
I can't do without you. I can't do without you.
y avait beaucoup de probabilités pour que son empressement auprès de cette femme ne restât pas vain. Elle était à cette époque décisive de la vie, où une femme commence à regretter d'être demeurée fidèle à un époux qui en réalité n'a jamais été aimé, et où le pourpre couché du soleil de sa beauté lui laisse encore un dernier choix pressant entre la maternité et la féminité. À cette minute, la vie, qui paraissait depuis longtemps déjà avoir été réglée d'une façon définitive, est de nouveau remise en question. Pour la dernière fois, l'aiguille magnétique de la volonté oscille entre la passion et la résignation à jamais. Une femme a alors à prendre la dangereuse décision de vivre sa propre destinée ou celle de ses enfants, d'être femme ou mère. Et le baron, qui dans ces choses-là était très pénétrant, croyait justement remarquer chez elle cette dangereuse oscillation entre l'ardeur de vivre et le sacrifice. Elle oubliait sans cesse, dans la conversation, de parler de son époux, qui, manifestement, ne paraissait satisfaire que ses besoins extérieurs, mais non son snobisme, excitée par une vie mondaine, et au fond de son être, elle était très peu attachée à son enfant. Une ombre d'ennui qui se dissimulait dans ses yeux sombres, sous forme de mélancolie, planait sur son existence et obscurcissait sa sensualité. Le baron résolut de faire vite, mais en même temps d'éviter toute apparence de précipitation. Au contraire, il voulait, comme le pêcheur qui retire l'hameçon pour mieux appâter, opposer pour sa part à cette nouvelle amitié une indifférence extérieure. Il voulait se faire désirer, alors qu'en réalité c'était lui qui désirait. Il se promit d'outrer un certain orgueil, d'accuser fortement la différence de leur position sociale. La pensée l'excitait d'arriver à conquérir ce beau corps plein et épanoui, rien que par l'affirmation de son orgueil, par la sonorité de son nom aristocratique et la froideur de ses manières.
De l'eau sur Mars, sur Hellebore.
Behind. love to love.